RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Aujourd'hui, notre trio de GG, l'avocate Sarah Salman, Willy Schran, qui est avec nous, qui est le président de la Fédération Nationale des Chasseurs, et c'est Étienne Liebig qui nous accompagne. Il est éducateur. La pénurie de main-d'œuvre. Où sont les saisonniers? Surtout, les saisonniers pour travailler dans les champs. C'est la question qu'on va se poser maintenant avec vous au 32-16.
RMC, les grandes gueules.
Il manque 15 000, au moins.
Oh, en plus.
Au moins 15 000 saisonniers pour les producteurs de fruits et légumes pour les aider à faire leur récolte.
Alors, beaucoup plus, hein, parce que les chiffres qui ont été donnés à la fois par le gouvernement et Légumes de France, qui est le syndicat de la profession. Là, on parle que pour les agriculteurs, hein, parce qu'il faudrait rajouter les restaurateurs. Sur 150 000 postes, la moitié n'a pas pu être pourvue. Donc, ça fait au moins 50 000 personnes. On rajoute la restauration, ça fait beaucoup de monde. Alors, c'est pas la première fois qu'on s'aperçoit que, à l'approche de l'été, il y a un manque de saisonniers. D'ailleurs, le gouvernement se réveille. Alors, certains disent un peu tard parce qu'ils ont présenté hier leur plan de bataille. Or, bon, on est quand même fin mai et qu'en général, ça doit se préparer plutôt l'hiver. Donc, certains disent qu'il faudrait que le gouvernement se réveille plus tard. Le problème, c'est visiblement surtout le logement, des offres de logement insuffisantes. Bien sûr, le salaire, mais des offres de logement. Le fait qu'on trouve quasiment plus de Français pour pouvoir faire ce travail. Donc les travailleurs qui continuent de venir sont pour la plupart des étrangers, notamment dans l'agriculture. On a même eu l'histoire de cet agriculteur qui a été obligé finalement de laisser sa production par terre parce qu'il n'avait pas les bras pour venir ramasser ses asperges. Est-ce que c'est une fatalité? Est-ce qu'on peut trouver enfin des solutions pour qu'il y ait des saisonniers qui fassent vivre à la fois l'agriculture et la restauration et l'hôtellerie?
Willy, toi qui a longtemps travaillé dans le secteur de la fleur, notamment.
Ouais, et puis bon, qui a beaucoup de familles dans le monde agricole, tout ça. Donc évidemment, c'est un vrai problème. On est plus sur un problème sociétal vis-à-vis de l'agriculture aujourd'hui. Depuis de nombreuses années, on a beaucoup terni l'image des agriculteurs et de ce métier. Travailler dans la terre, on a même en campagne maintenant beaucoup de gens qui ont plutôt des notions urbaines que rurales. Y mettre les pieds, c'est pas si facile que ça. Y mettre les mains, psychologiquement, c'est encore moins facile. On a aujourd'hui beaucoup de jeunes qui ne s'identifient pas du tout à un travail, même saisonnier, dans le monde agricole. Après, il y a une vraie pénibilité du travail, il faut le dire. Moi, j'habite une région, un secteur où, par exemple, il y a beaucoup de production, c'est le domaine de chou-fleur, c'est pénible. C'est beaucoup plus compliqué que d'être de faire quelques gens dans un resto.
Comment tu ramasses un chou-fleur alors?
Ah bah, c'est à quatre pattes, c'est le couteau.
Ah,
hein,
ça,
voilà,
couper le pied.
Il faut couper le pied. Il y a pas de machine, il y a rien. C'est physique. C'est physique. Alors, moi, je trouve que c'est plutôt quelque chose d'enrichissant. C'est plutôt un bon moment à passer. T'es quand même dans la nature. Tout le monde pleure pour aller beaucoup dans la nature. Mais dès qu'il faut, on sait, Sarah. Mais dès qu'il faut y travailler, on voit ce fossé qui se creuse entre l'appétence que peut représenter la ruralité et le rejet.
Est-ce qu'on n'est pas très éloigné maintenant?
Travailler, oui, mais oui, il y a un éloignement.
Il y a des générations, on avait encore un grand-père agriculteur ou une grand-mère, on allait à la campagne quand on était enfant,
ouais,
etc. Même si on vivait en ville, maintenant, ce lien entre l'agriculture et le monde urbain est très, très éloigné.
C'est-à-dire ça va plus loin. Il n'y a pas que ça. Il y a vraiment une dépréciation de cette activité agricole et rurale depuis de nombreuses années, on le voit bien.
Hein, on a
on a
beaucoup.
Là, on revient sur le problème alimentaire aujourd'hui et sur la production agricole.
Plein de gens qui veulent s'installer,
ce qui ne veut pas dire aujourd'hui qu'on n'a pas déprécié le métier de l'agriculture, physiquement, le métier. Et tu demandes à un gamin ce qu'il veut faire pendant les trois mois d'été, ou je sais pas, du saisonnier, il a aucune envie de se retrouver à quatre pattes à ramasser des choux-fleurs ou des pommes de terre.
Avant, tu passais tes étés, tes vacances chez tes grands-parents qui étaient agriculteurs, tu avais un contact avec la terre, etc.
Aujourd'hui, avec la terre, voilà.
C'était une résidence secondaire.
C'est
ça quand même ça avec un peu
aujourd'hui, la terre, c'est sale.
D'abord, on a un premier.
Pas de la terre.
On a un premier fantasme. C'est de considérer que les saisonniers sont des jeunes. D'abord, c'est faux. Les saisonniers ne sont pas des jeunes.
Non, mais il n'y a pas que des jeunes.
Les saisonniers n'ont pas moins de 25 ans. Ils ne sont pas des étudiants qui vont... premièrement. Deuxièmement, très important, le saisonnier n'existe plus en France. le saisonnier existait en France il y a quelques années, c'était, il existait au, dans le cadre de la NPE à l'époque, ou même du Pôle emploi, le saisonnier existait. Il avait des avantages précis du saisonnier, notamment une prime particulière pour, parce qu'il était, c'était précisément saisonnier, une obligation pour l'employeur de le réembaucher l'année suivante, etc.
Aujourd'hui,
tout ça a disparu. Le saisonnier est un CDD comme les autres. C'est-à-dire, il n'a plus une position particulière. Donc, effectivement, beaucoup de gens ont abandonné, à cause de cette loi, à cause de ce changement, ont abandonné l'idée d'être saisonnier. Il y avait, par exemple, des tas de gens qui faisaient...
Alors, c'était un vrai métier il y a quelques années.
Oui, bien sûr. Il y avait, par exemple, des gens qui travaillaient en hiver et en été avec des pauses. Donc, ils travaillaient au ski, et puis après, ils allaient travailler au bord de la mer. Ils faisaient moniteur de plongée ou je sais pas quoi. Et pendant les temps de pause, ils touchaient tout ça. Est terminé. Mais c'est le CDD. Et c'est un CDD tout à fait normal. Donc ça, déjà, ce statut, d'ailleurs, j'ai entendu que dans le projet de loi, il va y avoir à nouveau une prise en compte d'une véritable existence des saisonniers. Saisonnier, c'était un métier. Donc, et depuis, quand même, ça fait très longtemps que je suis éduc, hein, connu beaucoup de gens d'origine étrangère ou étrangers qui partaient faire les saisons. Les Tziganes, d'une part, qui venaient de Roumanie,
Les Roms, beaucoup
les Roms, et pas mal de gens qui venaient d'étrangers. On a effectivement besoin. Il y a même eu des énormes scandales, notamment dans la vigne, où les patrons allaient chercher des étrangers au Maroc ou n'importe, et ensuite leur promettaient qu'ils seraient régularisés et les lâchaient dans la nature, et ça devenait des gens sans papier. Donc il y a eu des tas de scandales à ce niveau-là.
Tu y faisais allusion il y a un instant aux travailleurs tziganes ou roumains. C'est Guillaume qui veut en parler avec nous, il appelle des Pyrénées-Orientales. Il est arboriculteur. Bonjour Guillaume.
Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Bonjour, justement. Les saisonniers, vous en manquez? Vous en avez trouvé? Vous êtes comme votre collègue là du Bas-Rhin, vous laissez les récoltes par terre parce que vous n'avez personne, dites-nous.
Ah non, pour le moment, on arrive encore à trouver. La chance qu'on a, c'est cette arrivée massive de Roumains, grâce à l'Europe, qui sont venus s'installer chez moi dans les Pyrénées-Orientales. J'imagine que c'est un peu pareil partout en France. Et qui sont à la recherche de beaucoup de travail.
Oui.
Et du coup, ça nous sauve vraiment la mise. Moi, personnellement, ça me sauve la mise, vraiment.
De quelle manière et pour récolter quoi, alors? Dites-nous.
Alors moi, je fais de la pêche nectarine et de l'abricot. Et au niveau, on commence avec l'éclaircissage, c'est-à-dire faire tomber les fruits. Et là, c'est là que ça commence à se compliquer pour trouver du monde. C'est assez rigoureux comme travail. Il faut des horaires, il faut être là à l'heure, il faut partir à l'heure, il faut pas être forcément tout le temps malade. Et en France, les Français, c'est devenu très, très, très compliqué.
C'est-à-dire, Guillaume, pour être précis, ça se passe, quels sont les horaires journée? Ça se passe sur combien de semaines? Dites-nous.
Là, à partir d'aujourd'hui, ils m'ont demandé de commencer à 6h du matin pour éviter les chaleurs.
D'accord.
Donc, on fait 6h du matin, midi, et ils finissent vers 15h ou 16h, ça dépend des jours.
D'accord. Et c'est payé combien?
On est au SMIC classique, quoi, le SMIC agricole.
Tout est déclaré?
Ah, bien sûr, oui. Avec les contrôles qu'on a.
Il va te dire non à la radio, non.
Très bien dit. On peut s'arranger aussi.
C'est 15 000 euros. Un employé non déclaré qui se fait choper, c'est 15 000 euros pour
un. Oui.
D'accord. Mais il y a plus de jeunes qui viennent, comme on a pu le faire les uns les autres, donner un petit coup de main là en disant allez, je viens une semaine, 15 jours avec vous, Guillaume.
C'est comme ça que moi j'ai commencé à travailler dans l'agricole. Ouais. Mais il peut y en avoir. Je dis pas, c'est comme pour tous, c'est pas 100% des gens qui ne veulent pas travailler. Maintenant, la qualité du travail, c'est pas la même. On a beaucoup d'absences. Et puis il faut pas se mentir. Hein. Moi, j'ai beaucoup d'ouvriers. J'ai eu des ouvriers à 10h du matin, 11h du matin, qui m'ont dit c'est bon, j'ai les heures pour le chômage.
Et voilà.
Je m'en vais.
Le saisonnier n'existe plus. Hein.
Je veux le papier jaune. Voilà ce qu'il me demandait.
D'accord. Et là, ça se passe bien avec tous les Roumains qui sont arrivés au cours des dernières années.
Des Roms.
Mon cher Guillaume, ouais.
Oui, ça se passe.
Ils sont installés dans la région, ouais.
Ils ont eu du mal, les pauvres, ils ont eu du mal à trouver des logements, mais dès que le propriétaire.
C'est un problème de logement, ouais.
Après, ils sont pas difficiles entre eux. C'est des familles entières, ils peuvent, malheureusement, ils vivent à 15 dans des logements. Qui ne sont pas du tout adaptés. Hein.
Ouais.
Ils ont une envie de.
Ils ont le mort aux dents.
une envie de travailler, une envie de réussir, c'est
on a envie.
Ah, oui. Ouais. Comme tous les migrants, hein, parce que c'est.
Ouais, ouais, mais sur les offres après. De logement, comment ça se fait qu'on trouve pas de quoi les loger, notamment dans des zones où on sait qu'il y a quand même pas mal de logements vacants.
Ben, je sais pas s'il y a beaucoup de logements vacants, mais après, quand on dit roumain, on dit rom.
Ah oui, c'est ça.
Rom, on dit délinquant, et quand on dit délinquant,
donc personne n'en veut.
Personne
n'en veut. Bien sûr, et y compris quand on dit migrants.
Oui, mais la main-d'œuvre locale n'est pas motivée. Là, il y a un agriculteur qui dit on a du mal à trouver une main-d'œuvre locale motivée. Les gens viennent un jour et repartent le lendemain car c'est trop dur.
C'est un problème.
Des jeunes qui ne veulent pas faire l'effort de travailler pendant l'été. C'est ça aussi.
Je vais vous raconter ma petite histoire personnelle dans les fleurs parce que c'est vraiment significatif de ce qui peut se passer. La saisonnalité.
Rappelle que les fleurs. Tu as longtemps fait les marchés.
Voilà, les marchés, je sais pas, travailler dur et après des magasins de fleurs. Pas mal, dans le nord de la France, on va dire. Et on avait des saisonnalités. La période du muguet, c'est une vraie saisonnalité. Bon, eux, là-bas, d'ailleurs, aussi à Nantes, pour faire que le muguet, bonjour, maintenant, c'est très compliqué. Tu reviens avec ça. Donc, tu avais besoin, je dirais, 150 personnes pour faire les petits paquets de muguet, tout ça. Les dernières années, je savais que je devais recruter 300 personnes. Pourquoi ? Tu commençais, ça commençait à 8h, à 10h, j'avais déjà perdu 20%. J'ai mal au dos. Tous des gamins, des jeunes, hein. Bon, j'ai mal au dos.
Ça, c'est partisan de moindre effort.
L'eau, c'est froid. J'ai un peu l'onglet dans le bout des doigts. C'est pas agréable. À la fin de la première journée, j'avais changé 50% des gens. À la fin de la deuxième, c'était les trois quarts.
Ah voilà, donc les gens n'ont plus le goût
d'effort. Et c'était de pire en pire, d'année en année. Et je le dis honnêtement.
T'as dit quoi là ?
Alors qu'on était quand même.
Non mais attends, t'as dit quoi là ?
Attendez, laissez finir Willy.
T'as déjà bossé dans ta vie, bien sûr.
C'est vrai que nos enfants ont des habitudes de vie.
Mais j'ai pas insulté.
Oui, des habitudes de vie qui sont différentes de ceux
d'il y a plus de 300 ans. Mais
oui, il y a pas 100 ans.
Mais oui,
arrêtez.
C'est marrant.
Tu ne te sens pas toujours obligé de défendre la
défense. Mais sur la défensive, parce que tu te sens agressé.
Je dis juste qu'on a l'impression que le monde est fait maintenant, que tous les jeunes sont devenus des fainéants.
Ah, expliquez qu'ils commencent à 300 et qu'à 10h du matin, il n'y en a plus.
Pas vrai, ça,
Ils ont
Etienne.
Peut-être
ça
plus de choix aussi.
Pas vrai, ils ont peut-être plus de choix, tu as raison. Et on voit bien que ces métiers-là, de la terre, du végétal, tout ça, c'est pas quelque chose qui les intéresse.
Mais que les
générations
de jeunes aient été élevés dans des conditions, et nos enfants ont été élevés dans des conditions qui font qu'effectivement il y a un espèce de confort moderne qui fait que c'est plus dur d'être dans les. Mais c'est quand même pas de la faute des jeunes si c'est les parents qui les ont élevés dans ces conditions. Hein. Je rappelle que on est en train d'accuser les jeunes finalement d'être les résultats de leur propre éducation.
Mais n'importe quoi.
Merci Guillaume d'avoir été avec nous. Oui, allez-y.
Je peux rebondir. Moi, je dis juste que les Roumains qui sont là, c'est la première génération de Roumains qui arrivent. La motivation est énorme.
Oui,
ils ne sont pas encore au courant du social qui est fait en France.
Leurs enfants, ce sera fini. Hein.
Leurs enfants, ça sera terminé.
C'est grave,
bien sûr.
Ça s'est passé pour les Portugais.
Il y a
ça
peu
s'est
travail,
passé
c'est
pour
foutu, quoi.
Tous les gens qui arrivent en France. La première génération est exceptionnelle.
C'est normal.
La deuxième se dégrade et la troisième ne travaille plus.
C'est normal.
Je sais pas si c'est normal.
Je dis pas que c'est
problème,
bien.
C'est qu'on a quand même un problème. Il faut bien des gens pour ramasser les légumes.
À un moment, il va y avoir ce que tu dis souvent. Il va y avoir une révolution, hein, parce qu'on va pas juste être une société de consommation. Et on va trouver où le pognon.
Je te rappelle quand même
son produit plus rien. Le social qui est fait en France.
On exporte n'importe où.
On se tue nous-mêmes avec ce social. Vraiment.
Après, il y a une petite chose, c'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure, Guillaume. C'est pour ceux qui ont fait les saisonnalités, t'aimais bien aussi, t'avais une partie qu'on te payait aussi
black.
En liquide. Tu vois, tu repartais, t'avais une partie de ton enveloppe.
Oui, bien sûr, c'est fini.
Vu l'acharnement thérapeutique du gouvernement sur la question.
Je rappelle quand même
que tout le monde y trouvait son compte.
Mais
tout le monde
y trouvait son compte.
Attendez, les chiffres sont sortis hier de la fraude sociale. Vous les avez lus ? Vous les avez lus?
Oui.
La fraude sociale, c'est 66% les professionnels de santé et 25% les patrons qui versent pas l'URSSAF.
Je rebondis tout de suite.
Non mais c'est incroyable.
Comment
parce
tu
que
peux
vous êtes
estimer
en
une fraude que tu connais pas?
Non mais attends, elle est absolument estimée.
Comment tu peux estimer une fraude que tu connais pas? C'est comme le mec qui dit, mais je suis volé de 50% de ce que j'ai. Ah bon? Alors, c'est qui te vole? Je sais pas, mais je l'estime. Là, on estime une fraude. Faut arrêter.
Vous avez
arrêté
de prendre
les patrons et les artisans pour des mecs qui fraudent à tout ce qui se passe autour d'eux.
Ils fraudent tous. Bon, enfin, quand on a vu que 66%, c'est les personnels de santé, ça fait beaucoup de monde quand même.
Bon, merci à Guillaume.
Les médecins, les infirmiers, les ambulanciers.
Merci à Guillaume.
Je vois pas comment ils fraudent.
De son témoignage. Attendez. Et donc, Guillaume, si jamais il y a des gens là qui veulent venir vous donner un petit coup de main dans les Pyrénées-Orientales, là, vers chez vous, alors, ils appellent qui? Ils vont où? Dites-nous.
Eh ben, ils m'appellent à moi.
Ouais, mais comment ça? Votre propriété, votre nom, c'est où?
Oh, c'est une SEA, SEA Alvarado.
L'abricot de Guillaume.
Ouais, l'abricot, la pêche, surtout beaucoup de pêche sur Perpignan, voilà.
Merci Guillaume d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Dans un instant, on ira dans la Marne. Là, c'est la viticulture champenoise avec Margot. Margot, elle est saisonnière agricole, justement, depuis 10 ans. 10 ans qu'elle fait ça.
Et ce que dit Étienne, il a raison, c'est un beau statut à remettre en place et à valoriser.
Statut pour ces gens-là.
Et à valoriser.
Donc, c'est comme l'été sur l'arrière, la promenade des Anglais, rue de France, t'as des saisonnières aussi qui arrivent.
Ouais.
Elles sont tarifées, mais c'est pas pour les mêmes raisons, mais c'est aussi une saisonnalité.
C'est une saisonalité.
Elles sont à Monaco aussi.
Elles suivent les grands événements sportifs sur la planète.
Allez, à tout de suite avec les grandes.
RMC,
9h midi,
les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
On continue notre discussion sur le manque de saisonniers, en particulier pour les agriculteurs dans les champs. Là, on manque de gens. Alors, comme disait Guillaume il y a un instant, lui, il a la filière roumaine du côté des Pyrénées-Orientales, du côté de Perpignan. Margot est saisonnière dans la Marne. Bonjour, Margot.
Bonjour, Margot.
Bonjour.
Merci d'avoir patienté, Margot. Mais saisonnière depuis 10 ans, donc, c'est ça?
C'est ça.
Et pourquoi ce choix? Alors, comment faites-vous? Comment vous êtes-vous organisée? Expliquez-nous.
Alors, je suis saisonnière agricole nomade, donc je suis en camion aménagé,
oui.
Et ça me permet en fait de faire le tour de France et de travailler au gré des saisons. Donc là, par exemple, je suis sur les travaux en verre, toute la préparation avant vendange en Champagne.
Oui.
Après, normalement, je fais les mirabelles en Lorraine, je reviens pour les vendanges en Champagne. Après, je descends entailler la vigne en Corse, après je fais les asperges dans le Toulousain. Enfin voilà, je fais le tour. Ça me permet d'augmenter mon potentiel emploi en fait.
Mais du coup, c'est plus saisonnier parce que si c'est toute l'année sans interruption, c'est plus tout à fait le statut. D'ailleurs, il n'y a plus de statut de saisonnier.
Il n'y a plus de saison.
C'est un peu litigieux parce qu'en fait, à la base, saisonnier agricole, c'était un métier justement. Les gens étaient. Parce que c'est ça le problème aussi, c'est que on a précarisé dans tous les sens. C'est-à-dire que comme on n'a pas de CDI, on peut pas signer par exemple un crédit.
Bien sûr.
Donc ça précarise. Les gens préfèrent aller sur des emplois de longue durée. Pareil pour le chômage. Là, ils ont cassé tout ce qui est chômage de longue durée. Sauf que nous, on est chômeurs de longue durée.
Eh oui.
Quand on a 15 jours de trou par-ci par-là, c'était eux qui prenaient le relais.
Ça, c'est
maintenant,
fini.
Ça ne fonctionne plus.
Eh oui, donc c'est ça qui a tout. C'est ça qui a tout cassé.
Et c'est l'effet pervers de cette réforme. Mais comment vous logez
dans son camion?
Un camion aménagé. Parce que justement, encore il y a 15 ans en arrière, les employeurs logeaient. Sauf que la MSA, donc c'est
Mutuelle sociale agricole,
qui légifère, c'est ça, l'agriculture, a mis en place des règles très strictes. C'était 7 mètres carrés par personne, voilà. Temps de douche par personne.
Et du coup, de mettre des normes à la con dans tous
les cas. Les employeurs n'arrivent plus à suivre à ce niveau-là.
Mais vous avez quel âge, Margot?
J'ai 30 ans.
Vous aimez ce que vous faites?
Oui, oui.
Ouais, mais la vie de famille, ça doit pas être facile, tout ça.
Il y a pas de vie de famille.
C'est physique, mais quand on est dedans, après, bon, on est en plein air. Nous, souvent, on travaille à deux avec mon compagnon, donc il y a une flexibilité.
Je voulais vous demander votre vie de famille. Donc vous vivez avec quelqu'un dans votre camion et qui travaille avec vous partout, alors.
Bah oui,
c'est ça.
Et combien gagnez-vous alors, Margot?
Alors.
En moyenne.
Ça dépend. C'est là où ça dépend. Par exemple, les vendanges en Champagne, en 10 jours, on fait 3000 euros. Après, sur la plupart des récoltes, ça va être du SMIC. Et c'est là où c'est vraiment pas attrayant. Parce que quand on a un fort rendement, qu'on est 10 fois rentable et que la personne nous paye au SMIC, ça fait pas envie.
Non, ça c'est vrai.
Sinon, en moyenne, on est sur du 12-15 euros de l'air brut. En moyenne.
D'accord.
Mais c'est un mode de vie qui vous convient, en fait.
Itinérant.
Oui, oui. C'est ça.
Puis le fait de changer tout le temps, d'avoir plein de trucs différents.
On comprend bien qu'on ne trouvera pas 500 000 ou 30 000 ou 40 000 personnes qui vivent comme Margot, qui a choisi ce mode de vie.
Hein. Allez-y, Margot.
C'est pas adapté pour tout le monde aussi.
C'est qu'à la base, c'était un métier vraiment, et qu'à un moment, on a dit, bon, ben voilà, job d'été des jeunes qui n'ont pas l'expérience, la qualité, le rendement, le calibre, ce genre de choses. Donc, ils font un peu tout et n'importe quoi, qui n'arrivent pas à subir les chaleurs. Là, en ce moment, on est en train de prendre des coups de soleil. Et voilà, c'est des métiers qui sont difficiles, et comme on les a dévalorisés à un moment donné, les gens n'ont plus le courage.
Bien sûr. Mais du coup, c'est important de dire qu'il n'y a plus de statut. Je crois que c'est vraiment ça. Et là-dessus, c'est pas ce dernier gouvernement, c'est bien antérieur. Mais ça a cassé complètement le
statut. Et du coup, Margot, vous avez des périodes sans travail? Ou pas?
Non, je fais 14 mois sur 12.
Ah oui, voilà.
Mais Margot, le jour où vous allez vouloir des enfants, vous allez devoir vous arrêter, j'imagine.
Non, c'est pas prévu.
Oui, mais non, vous avez choisi un autre mode de vie aujourd'hui.
Ah,
mais en fait, c'est un mode de vie aussi pour vous qui est écolo, quoi, j'imagine, assez écologique, quoi.
Ah ben, complètement. On est très, très peu. Mon électricité, c'est du solaire.
Oui.
On utilise très peu d'eau en général. On est autonome. Voilà, comme ça on peut arriver partout.
Et vis-à-vis de vos employeurs successifs, cette question-là, par exemple, de l'écologie se pose, ou par exemple, est-ce que vous êtes plus sur des, parce que là vous parliez de la champagne, est-ce que vous êtes sur des vignes, par exemple, qui sont respectueuses, ou est-ce que vous...
La champagne, elle a mis en place beaucoup de normes environnementales, oui, qui se durcissent d'année en année.
C'est pour ça.
Donc ils traitent de moins en moins.
Oui.
Et oui, ils les subissent, mais c'est quand même pas plus mal, parce que... Je me suis retrouvée une fois dans le Beaujolais à traiter au glyphosate le patron qui ne donne pas de combinaison adéquate.
Ouais, ou de gants, ou un masque.
Enfin, voilà. Donc, c'est bien aussi autant pour l'humain que pour la planète.
Ouais, on est tous d'accord là-dessus.
Margot, sans vouloir vous fâcher avec vos employeurs, mais qu'est-ce que vous préférez, ou la région vous préférez aller, le moment que vous attendez avec impatience, dites-nous.
Oh, ben maintenant tous, parce que c'est vrai que au fil des années, on a réussi à trouver des patrons qui sont quand même humains. Donc c'est vrai que la Corse pour le cadre. Après, c'est vrai que là, on est en négociation parce qu'il ne veut pas payer.
La champagne pour les bouteilles de champagne en cadeau, vous avez.
Je suis là, madame, si vous avez besoin.
Il y a toujours la tradition, Margot, de repartir avec quelques caisses de champagne offertes par le viticulteur.
Oui, toujours.
Ah, bah ouais.
En Corse, vous ramassez quoi?
On avait beaucoup d'avantages en nature en général. Il y a 3 ans, j'ai fait les huîtres pour la période de Noël, le renfort.
Oui. Ah, bah oui.
Et avant, tout le monde avait sa bourriche d'huîtres. Et là, ils nous disent, c'est 30% sur une bourriche. Bon, tu vas les garder.
On dit une bourriche.
Là, c'est petit joueur quand même.
Là, c'est mesquin, là.
Non, mais il faut que les employeurs jouent le jeu aussi, soit
bon.
Peu d'avantages en nature, quand même.
Super, statut, super témoignage, Margot.
Génial, Margot.
Merci beaucoup.
Bravo à vous.
Merci à vous.
Super. Bonne vendange, enfin, bonne préparation.
Les prochaines, c'est quoi, là, maintenant, là, vous en êtes où?
Champagne.
Vous êtes où, là?
En Champagne, on vient de commencer.
Vous venez de commencer Champagne?
C'est ça.
D'accord. Et les prochains fruits?
C'est normalement les Mirabelles en Lorraine.
Ah oui, les
super
Mirabelles.
Témoignage, mais
j'aime bien les
merci
Mirabelles.
Margot.
Merci
à bientôt, Margot.
Mais un peu exceptionnel, parce que ça correspond pas vraiment
choix de vie.
Aux saisonniers.
Mais qui n'est pas possible
mais
pour
si
tout
on
monde.
Veut des saisonniers, remettez le statut des saisonniers.
Un vrai statut.
Qui permet après 3 mois de travail d'avoir 3 mois au Pôle emploi.
On va continuer.
Et vous retrouverez des saisonniers sans problème.
On va continuer nos témoignages de se balader. Là, on était dans la Marne avec Margot. Saisonnière itinérante, c'est ce qu'elle nous a dit.
Nomade.
Avec Alexandre, qui est apiculteur du côté des Yvelines. Bonjour Alexandre.
Bonjour Alexandre.
Bonjour les GG.
Bonjour Alexandre.
Racontez-nous, vous, est-ce que vous cherchez du monde? Est-ce que vous en trouvez? Dites-moi.
Eh bien, depuis le mois de janvier, je cherche un saisonnier. On est quand même à 65 km de Paris. Alors, j'ai eu qu'une seule candidature, donc une personne qui vient de cette maritime. Et la personne, au bout de 7 semaines, elle me dit, j'arrête, je préfère rester au chômage. Donc, il m'a planté 2 semaines avant les récoltes de miel, que je termine aujourd'hui, les récoltes de miel de printemps. Et voilà, je fais 85 heures semaine, ma femme aussi, on voit à peine des enfants et on est vraiment KO en milieu de saison, et ça va être très compliqué pour la deuxième partie de l'année apicole.
Mais c'est quoi? C'est la pénibilité comment vous l'expliquez, Alexandre?
Je pense que c'est vraiment la pénurie de main-d'œuvre, parce que la personne qui était là avant avait un projet d'installation, donc on était prêt à participer en lui finançant des essaims, en lui prêtant notre outil de miellerie pour extraire et mettre en pot ses futurs miels, etc. Il y avait quand même pas mal d'avantages en nature. comme l'aider à s'installer. Mais non, a priori, c'est trop dur. À 18h, il commençait déjà à regarder sa montre pour partir. Voilà, donc du coup, ça me stressait.
Il n'y a aucun goût de l'effort.
Voilà, il n'y a aucun goût de l'effort. Nous, on a créé l'exploitation il y a 8 ans à base de 2 ruches. On en a plus de 1000 aujourd'hui. On produit du miel, du pollen, de la jument royale. On élève des rennes, des essaims. Mais ce n'est pas assez, en fait. Ce n'est pas assez attrayant, du coup. Donc,
Quelle est l'indemnité, le salaire, c'est combien?
Alors, je le payais près de 1600 euros, sachant qu'on payait les heures supplémentaires et il y avait une participation des frais kilométriques en plus.
D'accord.
Donc, et pour le logement, il était à 3000 euros net. Hein.
Et le logement?
Il n'y avait pas de logement, malheureusement, en région parisienne, dans le Vexin, c'est très tendu.
Aussi le problème.
Parisienne, c'est le problème.
Oui, moi je pense que le logement, c'est le problème numéro un en ce moment des saisonniers. Et alors, j'ai vu que François Ruffin, il proposait le camping gratuit pour notamment les étudiants saisonniers. Peut-être une solution.
Oui, mais en fait, encore faut-il avoir des saisonniers, quoi.
Voilà, c'est ça.
Et les campings. Oui, mais si on a le logement, on aura des saisonniers.
Oui, mais
justement.
Si on dit, voilà, ça sera plus simple pour loger. Si on donne quelques avantages supplémentaires, ça peut rendre plus attrayant cette profession.
Après, la mort du travail, ça commence à devenir compliqué chez nous. Hein.
Ouais, la personne, elle voulait s'installer. Un cheptel d'abeilles, ça coûte quand même extrêmement cher. J'étais prêt à mettre la main, entre guillemets, pour l'aider. Mais bon, il préfère rester à la maison.
Les gens visent que le chômage et travailler sert uniquement à obtenir
des points. En même temps,
s'il
touche le chômage et qu'il a travaillé avec
le chômage, pour le toucher, il faut avoir travaillé. Il faut avoir travaillé 6 mois déjà.
D'accord, mais s'il travaille uniquement dans le but d'obtenir le chômage.
Vous dites, Alexandre?
Il avait un CV perlé déjà, ça m'avait un peu mis la puce à l'oreille. Et comme j'ai eu qu'une candidature, j'ai dû choisir par défaut.
C'est le principe du chômage, tu n'as pas le chômage et tu ne travailles
pas. D'accord, mais si tu travailles dans le but d'obtenir le chômage, et là il y avait des signes avant.
Le problème c'est qu'aujourd'hui il y a un système, c'est que tu fais quelques mois, tu touches le chômage,
tu fais
quelques
mois. Mais c'est une alternance, tu fais travail, chômage, travail, chômage.
Je te rappelle que c'est exactement l'inverse. Avant il fallait 3 mois, aujourd'hui il faut 6 mois, donc c'est exactement l'inverse. Il faut travailler plus longtemps. Tu voudrais quoi? Que les gens qui se retrouvent, par exemple, à la fin de la saison, ils ont travaillé 6 mois, on est en fin de saison, parce que là, on nous donne des cas.
La plupart du temps, les gens travaillent.
Ils se retrouvent au chômage et qu'ils ne touchent rien.
Là, il est parti plus tôt, c'est ce qui t'explique,
Parce qu'il avait calculé qu'il avait ses 6 mois.
Merci, Alexandre. Salut, Alexandre. Et si on veut vous rejoindre, attendez, si on veut vous donner un coup de main, on ne sait jamais, via les GG, dites-nous, est-ce qu'on peut vous trouver, donner le nom de votre exploitation.
On est à Breuil, en Vexin, à côté de Gargenville, près de l'autoroute. 13, et si vous voulez nous contacter, c'est lesruchersdalexandre.fr.
Merci Alex, merci d'avoir été avec nous. À bientôt Alexandre. On va terminer avec Brice qui est serveur. Il n'y avait pas eu de serveur encore, on était dans l'agriculture. Brice qui nous appelle de Seine-Maritime. Bonjour Brice.
Bonjour l'équipe, bonjour les GG.
Alors,
Mais c'est Brice Dieu.
Ben oui, c'est moi.
Parce que je n'étais pas là quand il était venu avec vous.
Brice, vous faites que ça, c'est ça, rappelez-nous. Rappelle-nous, parce que maintenant, suis-toi, on se connaît bien.
Moi, en fait, c'est pas vraiment de la saison, ça pourrait être considéré comme tel, mais moi, le métier, comment je le fais, en fait, on travaille toute l'année, on a du boulot tous les mois. C'est pas encore comme les saisonniers qui travaillent de décembre jusqu'à avril et de juin jusqu'à septembre.
T'as un contrat mensuel renouvelé?
Non, moi c'est que des petits contrats en fait, mais ce qu'il y a, c'est qu'avec mon boulot, j'ai du boulot toute l'année, tous les mois.
Il va de foire en foire, de fête en fête, des
suites de CDD.
Voilà, exactement.
Tu peux pas le faire à l'infini, les suites de CDD.
Et donc,
avec le même employeur.
Un peu comme Margot dans l'agriculture.
C'est plus ou moins le même principe, mais en restauration.
D'accord. Et tu taffes toute l'année?
Toute l'année.
Et là, en ce moment, tu travailles où alors?
Là, c'est la semaine de grand repos avant l'armada à Rouen.
Ah oui, la grande armada, c'est la réunion des voiliers.
Est-ce que tu as une prime de précarité sur ta fiche de paye à chaque contrat?
Non.
Voilà, c'est ça qui a été supprimé, puisque 10%, quand on était sur un CDD et que donc on était en insécurité d'emploi, nous avions, et je l'ai fait moi-même, une prime qui s'appelait la prime de précarité, qui effectivement nous attirait un certain nombre de gens sur des CDD courts en remplacement. Aujourd'hui, cette prime a disparu, ce qui fait qu'effectivement nous n'avons plus aucun avantage à être en CDD, sauf à choisir une vie comme Brice, qui est une vie un peu plus aventureuse.
C'est pareil, on en revient au même. C'est le statut qui y avait avant à Pôle emploi, quand il y avait en restauration, comme nous on avait par exemple le régime 23, tous ces régimes-là ont été supprimés.
Bien sûr.
Le problème, c'est que tous ces gens-là qui bénéficient aussi de ce système-là, c'était des vrais professionnels aussi des saisons, des mecs qui vont bien bosser.
Ouais, bien sûr.
On en a eu pendant un moment beaucoup qui sont partis en Suisse parce qu'en France, c'était plus assez intéressant.
C'est ça.
Parce que les saisons aussi, les trois, avant ça payait. Maintenant, c'est les trois quarts du temps. Vous avez quoi? Vous avez 300 euros de plus que le SMIC. Si vous êtes logé, il faut voir la tranche du logement. Soit c'est hors de prix,
soit
c'est, oh, si c'est vous un
souvent c'est insalubre, ouais. Ça donne pas envie.
Donc il faut rendre plus attractif ce métier-là.
Bah, on va mettre le statut que nous avions.
Et le logement,
les heures pas payées, les 7 jours sur 7. Si on est payé correctement, c'est pas un problème, on peut les faire, on les enchaîne, on sait le faire. Mais quand vous êtes payé à coup de lance-pierre,
qu'il faut au SMIC amélioré et un truc insalubre.
Les heures pas payées, les heures pas payées en restauration, c'est un scandale.
Bien raison. Scandale. Mais donc, merci. Bon, après, Brice, c'est quand même une vie de bohème extraordinaire, ça, Brice. Ouais. Hein?
Bah, ça permet de voyager, on sert jamais.
Ah ouais.
Et là, après l'armada à Rouen, tu vas où, Brice?
Douai début juillet, après je vais à Rethel dans les Ardennes, à Cambrai et à la Foire Expo de Chalon.
Ah oui.
Et là, t'auras fait l'été, en fait.
Là, j'aurais fini l'été.
Et le logement, tu les trouves comment?
Bah, c'est Airbnb.
Okay.
Ah, bah tiens, ah bah, bah, mon cher Brice, je te remercie d'avoir été avec nous. Bonne saison, Brice. À bientôt.
Il paye lui-même.
Salut, Brice. À bientôt.
Bah, tiens, coûte 50%.
Brice, il évoquait Airbnb. On l'a mis dans le à vous de choisir aujourd'hui, Airbnb, là, pour 11h. Vous pouvez aller voir sur les réseaux sociaux. On vous a proposé deux sujets de discussion. Airbnb, là, les locations sur les périodes courtes. Paris, c'est l'enfer, en fait, pour les voisins, pour les gens qui, eux, habitent le coin. Ou est-ce que vous voulez qu'on parle de la suppression de l'amende forfaitaire délictuelle pour les petits délits, par exemple les quand vous êtes consommateur de cannabis, etc. Là, visiblement, le gouvernement veut travailler là-dessus et veut arrêter l'amende. Alors Airbnb, l'enfer pour les habitants ou pour les voisins, ou la suppression de l'amende forfaitaire, vous choisissez un de ces deux sujets et puis on en parle tout à l'heure à 11h. Dans un instant, ça se passe chez vous, Strasbourg, un pasteur menacé de mort parce qu'il a fait un spectacle de pole dance dans son église, dans son temple, et malgré les menaces de mort, il va le faire. Là encore,
dégorgement.
C'était hier soir, ce soir et demain.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Aujourd'hui, notre trio de GG, Sarah Salman, avocate, Willy Schran, le président de la Fédération nationale des chasseurs, et puis nous sommes avec l'éducateur Étienne Liebig. Il est 11h moins 20, moins le quart même. C'est au 10h45, ça se dit aussi. C'est l'heure de retrouver Louis Gerbier. Ça se passe chez vous.
RMC, les grandes gueules.
Ça se passe chez vous.
Où va-t-on aujourd'hui, Louis?
Aujourd'hui, nous allons dans le Bas-Rhin, qui est en haut d'ailleurs, à Strasbourg.
Et quel numéro?
Oula, tu me colles. Quelqu'un le sait?
À 60.
Aïe. 64, non?
Non, 64, 8. C'est les Pyrénées.
C'est 7 ou 8, c'est ça?
Oui, moi je crois que c'est 7 ou 8.
Alors, dans quel sens? Le bas est en haut, le haut est en bas.
37. Bon, allez, 67, vas-y, on va chercher. Olivier est en train de chercher sur son portable.
Bas-Rhin
avant le Haut-Rhin, j'irais 67, mais.
Pas le Bahreïn. Hein.
On va à Strasbourg, du coup, à l'église protestante Saint-Guillaume.
67.
Où est
67.
67, ouais. Merci Olivier. Où est de nouveau prévu un spectacle cette semaine dans lequel un acrobate fait de la pole dance sur de la musique pergolaise.
Il a poil ou pas le mec?
En partie. Non. Il n'est pas complètement.
Il est dénudé.
Non, mais
donc d'abord, c'est pas une femme, c'est un homme.
Il est dénudé, voilà. Et tout début avril, c'était la représentation de cet artiste alsacien avait valu à la paroisse des lettres anonymes et de menaces de mort. Ils ont retrouvé deux courriers le même jour, un manuscrit, l'autre dactylographié, où il est question de couper la tête du pasteur et dans l'autre de décapiter des paroissiens.
C'est des gamins.
Ça. Néanmoins, le pasteur refuse de céder à ces menaces. Il sera avec nous dans un instant et il reproduit ce spectacle cette semaine dans son église protestante. Avant ça, les GG, un spectacle de pole dance dans une église protestante, qu'en pensez-vous,
mais
Sarah?
Mais c'est honteux. Dans ce cas-là, autant aller voir, je sais pas, faut aller voir ça aux Folies Bergères, mais c'est pas le lieu de l'église. Moi, quand on va dans une... Bon, j'y vais pas, mais quand on va dans une église, c'est pas pour voir ça. Faut aller au cabaret, au Lido, aux Folies Bergères. Mais là, c'est complètement indécent. Enfin, je sais pas, on peut faire ça dans une synagogue pendant qu'on y est. Enfin, je sais pas.
Oui, alors, oui.
Bah, moi je trouve pas ça choquant du
mais
tout.
Mais si faut c'est vivre choquant, avec... le gars il.
Je suis un. Alors,
non, il est pas
le catho de base vous parle. Donc voilà,
dans les
je suis catho.
Ça choquerait pas.
Bah, un mec torse nu sur un poulant et alors
tu parles d'affaires.
Moi qui trouve honnêtement que toutes les prêtres devraient se marier, donc à partir de là, quand même pas.
Moi je trouve que c'est contraire aux bonnes mœurs.
Ah ouais,
ça c'est des mauvaises mœurs.
Et 350 000 enfants violés, c'est pas contraire aux bonnes mœurs.
Non mais arrête, à chaque fois que vous devez dire que vous
parlez
d'enfants violés,
s'il y a un combat à mener, j'étais pas prêt. Sachez monnaie des bons combats.
À chaque fois qu'on fait une émission ensemble, je viens de
sachez monnaie des bons combats.
Alors, bon, alors après, il faut quand même relativiser. Il y a deux lettres de menaces de mort. Mais c'est des gamins. Moi, qui en a eu 10 000 dans ma vie, je peux parler d'autre chose. Il y a deux courriers, on va dire.
Non, mais on va pas cautionner les menaces de mort non plus.
Non, on va pas les cautionner, mais il y a deux courriers.
Non, tu peux pas laisser passer les menaces de mort.
Quel est le côté sacré du spectacle, en fait? Ça, je comprends pas.
Il y en a pas. Sister Act, le film, non, c'était pareil.
Différent, le gospel.
Tu vois bien que la barre a une connotation sexuelle. Ça, c'est des positions lascives.
Écoute, s'ils veulent venir, peut-être, s'il y a peut-être d'autres gens qui doivent venir un peu dans les églises que de se faire chier entre grenouilles de bénitier, eh ben, on met des mecs qui sont sur des poules danses, des choses
comme ça. Sincèrement, tu vas pas. Pardon, tu vas pas dans un temps pour trincer l'œil. Je suis d'accord avec Sarah. Moi, je m'en fiche, je suis pas protestant.
Toi, si tu mates un mec en short,
de striptease ou etc. Mais dans un temps,
il y a une chorégraphie là.
Excuse-moi.
Le mec est à poil.
Dans un temple, tu ne vas pas non plus pour voir des concerts de musique. Tu ne vas pas non plus. Or, il se trouve qu'il y a dans les temples.
Mais il y a un côté sacré dans l'église.
Dans les temples et dans les églises, il y a des tas de choses. Notamment, il y a eu d'énormes scandales au début parce qu'on faisait du rock dans les églises. On faisait. Heureusement, je dirais heureusement que l'église a été suffisamment intelligente à un moment. D'ailleurs, c'est tout à fait vrai, par exemple, en Amérique du Sud, etc., où les églises.
Pas ça, hein.
Attends, excuse-moi. Si, il y a même pire. Le problème, là, c'est moins vrai chez les protestants, mais c'est aussi vrai, notamment chez les luthériens, mais le fait de l'éloignement de la population, parce qu'ils ne se retrouvent plus, ils ne sentent rien dans cette
église.
On va faire un striptease la prochaine fois. J'étais à Bologne.
Il y avait par exemple les défilés de mode avec des dans une église, mais bien sûr c'est une église, c'est un hôtel de passe. Il faut au contraire réfléchir différemment, elle n'était pas désacralisée, c'était l'église principale de Bologne.
Etienne, c'est deux choses. Soit effectivement tu désacralises le lieu et ce n'est plus une église,
c'est pas désacralisé,
et on garde le lieu et on fait ce qu'on veut, des gens à poil,
si c'est
un lieu de recueillement. Alors, pardon, le pole dance,
le pasteur est avec nous. Le pasteur est avec nous. Le pasteur Bossenbacher qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Dites donc, que de bruit autour de cette initiative que vous avez prise. D'abord, quelle mouche païenne vous a piqué?
Je vois que les débats sont très animés.
Oui, allez-y.
Sur le plateau, en tout cas. Oui, alors. C'est vrai que je regrette un petit peu que les choses soient uniquement focalisées sur la pole dance. C'est vrai que ça fait penser évidemment au striptease. Déjà, le danseur ne s'est pas contenté de pole dance. Il y avait aussi du tissu aérien, du cerceau. Il n'avait aucune volonté de striptease, mais il y avait un concert autour du Stabat Mater de Pergolès, qui est un thème religieux, qui parle de la mort du Christ. Et l'idée, c'était simplement que le gymnaste représente le Christ. Et l'idée, c'était de faire passer des émotions. Et ça a très bien fonctionné. Parce que des paroissiens, même, qui étaient réticents,
en voyant les graphiques,
bien sûr, du gymnaste pas très habillé, en sont sortis bouleversés parce qu'ils n'ont plus vraiment.
C'est juste, c'est pas lieu en fait.
Le spectacle s'est bien tenu hier et doit se tenir ce soir et demain, monsieur le pasteur.
Voilà, alors il y a eu un spectacle hier, un petit peu différent, toujours pergolèse, mais autour d'un opéra cette fois-ci.
Mais pourquoi, c'est pas ce que vous dites, pour remplir l'église, il faut aussi aller vers des choses plus modernes, différentes?
Je pense effectivement qu'il faut s'ouvrir à la différence. Et donc, je conçois bien que certains trouvent que c'est de la provocation. C'est en tout cas pas le but de la paroisse. Mais c'est de dire, nous sommes ouverts à des styles de musique différents. Nous sommes aussi ouverts à des personnes qui ont une pensée différente. Et c'est vrai que Saint-Guillaume est aussi connu pour accueillir des personnes...
Quelle est la limite de cette ouverture d'esprit? Jusqu'où faut-il aller dans l'ouverture d'esprit?
Moi, je pense qu'on peut aller très loin dans l'ouverture d'esprit.
D'accord. Et quelle est la prochaine étape, qu'on soit un peu préparé?
Je ne sais pas pourquoi vous demandez, je ne sais pas quoi vous attendez.
Je ne sais pas, je n'ai pas d'attente particulière.
C'est de la provoque, Sarah, toi, ça te choque.
C'est de la provoque.
Ça me choque, quoi.
Toi, ça va?
Non, moi je suis juive, mais il y aurait ça dans une synagogue, je serais affligée.
Tu pètes un câble.
Non,
moi ça me choque pas, je trouve que ce que vous faites monsieur le pasteur c'est plutôt très bien. Faut vous ouvrir un petit peu sur ce qui se passe autour. Il y a rien de choquant, il y a rien dans les écritures qui est interdit et qui dit qu'il est immoral hein de d'aimer la musique, d'aimer la chorégraphie, d'aimer la chorégraphie corporelle. D'aimer la peinture, il y a des tas d'arts qui sont représentés d'ailleurs dans les lieux de culte.
Non, nudité dans les églises.
Il y a une morale sociétale qui se met en place et qui décrète que certaines choses n'ont pas le droit d'entrer dans les lieux de culte.
Bah oui, il y a des lieux
où
qui
on
sont
peut
sacrés.
Trouver
bah
un
oui.
moment de recueillement, c'est vrai, et aussi un moment de partage sur d'autres choses. Bah, bravo
pour ce que vous faites.
D'autant que je trouve intéressant que notre pasteur précise que c'était une forme d'imagerie du Christ.
Voilà, dans la représentation du Christ. Tout
parce
à fait.
Que, effectivement, le Christ,
ça,
le Christ, il est nu. Je regrette. Il y a une forme qui peut être perçue comme ça, mais moi, je perçois bien l'idée du corps comme ça, qui est sur une barre, comme un corps crucifié. Il y a quelque chose.
Mais les positions lascives,
mais c'est toi.
Les positions lascives, la chapelle
sixtine. Tu as l'esprit mal placé.
Ah bah.
Un problème avec la nudité.
Vous pouvez imaginer que d'autres personnes aient un autre point de vue que vous. C'est vous qui parlez de position lascive. C'est votre avis.
Oui, mais Daniel, pardon, mais il y a, à mon avis, quand même de votre part, et pourquoi pas une envie un peu de provoquer. Alors d'ailleurs, ça provoque le débat, donc c'est peut-être aussi l'effet recherché. Mais lorsque vous décidez de représenter le Christ par quelqu'un qui est torse nu et qui danse autour d'une barre, en pole dance, forcément, ça va provoquer quelque chose. Enfin, il faut pas non plus, il y a que Étienne qui voit pas que ça va forcément provoquer quelque chose.
Non, mais
je dis pas que les menaces de mort sont inadmissibles. Mais forcément, vous avez provoqué le débat et le rejet aussi, d'une certaine façon, de gens qui vont dire, non. Pour moi, le Christ, c'est pas ça. Voilà.
Oui, c'est nécessairement clivant.
C'est forcément clivant.
Cela dit,
il faut l'assumer parce que moi, il n'y a rien de plus terrible.
On les écoute, ils remettent
la Vierge effarouchée.
Je ne comprends pas, les gens sont choqués.
Non, mais
alors ça, c'est
avec moi. Non, mais reconnais que ça peut paraître assez.
La Vierge effarouchée, je comprends pas.
Reconnais que ça peut paraître assez baroque, et là, je me tourne aussi vers Michel le Pasteur, d'avoir des ouailles qui soient choquées, et ce sont les mêmes qui vont s'extasier sur le plafond de la chapelle Sixtine où il n'y a que des hommes nus dans des positions
lascives. Le cul de Dieu.
Vous ne pensez pas, monsieur le pasteur?
J'ai du mal à suivre le débat quand tout le monde parle en même temps.
Vous avez raison. Non, je disais que les ouailles qui seront choquées sont les mêmes qui iront s'extasier devant le plafond de la chapelle Sixtine ou des tableaux du Caravage, où on n'a que des corps d'hommes qui sont représentés nus, religieux et en position lascive aussi. Voilà.
Effectivement, de ce point de vue-là.
Tous à poil dans les églises.
Mais non, c'est pas
allez.
Ça. Allez.
On suit le raisonnement.
C'est vraiment pas la question.
Enfin, ah oui, on est d'accord. Si t'es choqué par ça, t'es choqué par les tableaux.
Là, on parle d'une barre de poil dance.
C'est pas être choqué, c'est d'essayer de comprendre que les gens puissent être choqués.
Là, t'essayes pas de comprendre, tu es juste. Mais c'est normal que les gens soient choqués.
Ben voilà,
tu viens de dire l'inverse.
Non, parce que vous avez dit, oh là là.
Il n'y a pas de problème.
Parce que c'est de la provoque. Donc, ne soyez pas choqués de voir Jean choqué. Admettez qu'on puisse ne pas comprendre qu'on représente le Christ comme ça.
Mais je suis pas choqué du tout que les gens soient choqués. J'ai connu une époque où à l'église où j'étais enfant de cœur, on n'avait pas le droit de chanter, on n'avait pas le droit de faire du jazz. On n'avait pas le droit de dire du jazz.
Merci, monsieur le pasteur.
Surpris, je veux bien. Choqué. Il n'y a pas d'autre chose qui peuvent te choquer dans la vie que de voir
si t'es croyant, oui, tu peux être choqué.
Et quel rapport avec ta croyance et ta foi? Quel rapport avec ta croyance et ta foi?
Merci Daniel, merci monsieur le pasteur. Bonne représentation ce soir.
T'es pas choqué,
vous allez créer. Je suis profondément religieux.
Louis, tu fous le bordel avec tes questions.
Retour au calme, s'il vous plaît. La grenouille qui porte la parole de l'évangile.
Non, la grenouille de Bénitier, c'est Willy. C'est moi. Il a dit lui-même.
C'est moi.
Allez, suite des GG dans un instant. Merci au pasteur.
Merci.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules.